Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Florent Guignard.
Seconde partie de Mardi politique avec le socialiste Emmanuel Maurel, eurodéputé, représentant de l'aile gauche du Parti socialiste, avec son courant maintenant la gauche. Et pour vous interroger, dans ces 20 prochaines minutes, Bernard Pellegrin de l'AFP, Lilian Alemania de Libération. On va parler d'Europe, Emmanuel Maurel. Vous êtes député européen, vous venez d'être élu fin mai. Dans deux jours, il y a un Conseil européen important. François Hollande dit vouloir écrire une nouvelle étape de la construction européenne en faveur de la croissance et de l'emploi. Il a envoyé une lettre au président du Conseil européen en ce sens, Herman Van Rompuy. Et il le disait déjà samedi à l'issue de la réunion qui a eu lieu à l'Élysée entre les dirigeants sociaux-démocrates européens. Il est possible, a dit François Hollande, il est possible d'assouplir le pacte de stabilité et de desserrer l'étau de la contrainte budgétaire.
La vraie question, c'est quelle Europe nous voulons pour les 5 prochaines années, pour lui donner une direction, pour répondre davantage aux aspirations des peuples. Ne rentrons pas dans un débat qui serait la renégociation formelle, où nous n'aurions rien à espérer et qui prendrait un temps considérable. Utilisons tout ce qui est prévu aujourd'hui dans les traités pour assouplir le plus possible le pacte pour l'ensemble des pays considérés.
Emmanuel Maurel, François Hollande et la gauche européenne ont-ils aujourd'hui les moyens de réorienter l'Europe? Cette expression, on l'entend dans la bouche de François Hollande depuis plus de 2 ans. Est-ce que la gauche européenne aujourd'hui est suffisamment forte pour imposer ses vues?
Je vais vous dire déjà, moi je suis heureux d'entendre ça.
Parce que c'est, ça vous réconcilie avec François Hollande?
J'ai pas besoin de réconcilier avec François Hollande, c'est pas le problème.
Avec sa politique?
Ah oui, c'est avec sa politique, oui, ça c'est sûr. Mais justement, ça y contribue, parce que d'abord il renoue avec ce qu'il a fait gagner, les élections présidentielles. Ce qu'il n'a pas fait, juste après avoir gagné, puisqu'il n'a pas renégocié le traité budgétaire, contrairement à ce à quoi il s'était engagé, ce qui, à mon avis, nous aurait aidé.
Il a essayé, quand même.
Il a essayé. C'était vite fait. mais là, ce qui est intéressant, et je pense que c'est évidemment lié au résultat des élections européennes, qui n'a pas été bon, et surtout, qui a vu monter, et pas seulement en France, des partis xénophobes, populistes, anti-européens, et dans certains pays, massivement. Je pense qu'il y a une prise de conscience et qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à ce texte, à cet appel pour une réorientation, et il est bienvenu. Surtout que sur le fond, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, ça fait 2 ans que je dis ça, donc au contraire, moi je me sens conforté dans mes analyses. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est assez concret. C'est croissance et emploi, mais derrière, il y a des propositions concrètes sur l'emploi des jeunes également, puisqu'ils proposent de passer de mémoire de 6 à 20 milliards pour la politique pour le chômage des jeunes, transition énergétique. Enfin, il y a quand même des propositions. Et puis, il y a bien sûr l'histoire du calcul. Une proposition qui traîne, c'est de sortir du calcul des déficits publics, l'investissement.
Bon, ça avance. Italienne.
Ça, oui, mais c'est une très bonne proposition pour le coup. Tout ça avance. Est-ce qu'il en a les moyens? Déjà, c'est bien d'essayer. Parce que le principe, c'est qu'on gagne un rapport de force que quand on le pose. Or, jusqu'à maintenant, on n'avait pas toujours l'impression que le rapport de force était posé. Deuxièmement, le résultat des élections, ça donne une force supplémentaire à ces propositions. Parce que les gens se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuer comme avant dans l'Union européenne. Troisièmement, Matteo Renzi, auréolé de son score aux européennes et qui va prendre la présidence de l'Union, de ce point de vue-là, c'est une chance, puisqu'il a promis de réorienter. On peut avoir telle ou telle appréciation sur telle ou telle politique menée nationalement, mais sur l'Europe, il a toujours été clair. Donc il y a cet axe franco-italien qui est intéressant. Et puis, dernièrement, moi, je pense que François Hollande a bien compris que pour la France, ça passait nécessairement par une relance au niveau européen, et que c'est maintenant, quoi.
Oui.
Le changement, c'est maintenant.
D'ailleurs, le changement fait sa réapparition dans le vocabulaire de François Hollande, puisque
c'est
dans le titre de cette lettre à Herman Van Rompuy. Une question, Emmanuel Maurel, une question de Lilian Alemania de Libération.
Mais comment François Hollande peut tenir aujourd'hui ce discours, alors qu'au départ, il a fait voter, y compris à sa majorité, un traité qui inscrivait dans le marbre l'équilibre budgétaire de chaque pays, la réduction des déficits. Vous l'avez combattu, ce traité?
Ah oui.
Est-ce que c'est pas de la part de François Hollande le début de sa faiblesse en Europe?
Moi, j'ai toujours dit que le fait de pas avoir renégocié le TSCG donc juste après l'élection de François Hollande, c'était une erreur, une faute politique, parce que il venait d'être élu par, je sais plus combien, 17-18 millions de Français, et qu'il avait les moyens politiques d'arriver en face de Madame Merkel en disant je m'excuse, mais moi, voilà ce que veulent les Français.
Mais comment il peut être crédible alors aujourd'hui en disant ça ?
Et la France, contrairement à ce que j'entends parfois de tous ceux qui font de la France bashing, la France c'est comme le deuxième pays de l'Union Européenne, c'est un grand peuple, avec de formidables atouts, on avait les moyens politiques de le faire. Deux ans après, écoutez, moi, mieux vaut tard que jamais. Moi, je ne vais pas citer Gandhi, hein, je vais rester aux fondamentaux. Mais enfin, c'est bien. Et c'est bien. Et en plus, la fenêtre de tir, en effet, intéressante, parce que il y a les élections, il y a une prise de conscience. En réalité, il y a une prise de conscience générale que, de toute façon, ce pacte de stabilité, dans le contexte de quasi-récession et de quasi-déflation qu'on connaît aujourd'hui, c'est juste absurde. C'est absurde, ça marche pas, et ça a des conséquences sociales désastreuses. Et vous voulez que je vous dise, j'étais à Bruxelles la semaine dernière, même quand on rencontre des collègues de droite, ils vous disent la même chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne marche pas, ça appauvrit les peuples. Donc, il y a que les chefs d'État et de gouvernement sociaux-démocrates s'en rendent compte, c'est une chose, mais même chez les conservateurs, même chez les libéraux, il y a cette prise de conscience que, de toute façon, ça ne pourra pas continuer comme ça. Le seul risque, je voudrais insister là-dessus, c'est que cette bataille pour l'assouplissement budgétaire, qui est une bataille bienvenue et très importante, il ne faut pas que ça contribue à une sorte d'échange avec la Commission. On vous dit, bon, OK, on va lâcher là-dessus, mais en échange, vous continuez sur ce qu'on appelle les réformes structurelles, flexibiliser le marché du travail, casser la retraite par répartition, etc., etc. Parce que dans ce cas-là, je considérais que c'est un marché dupe et que ce n'est pas possible.
Bernard Pellegrin, de l'AFP.
Alors, un marché dupe, c'est un peu la question que j'allais vous poser, mais enfin, en d'autres termes, François Hollande, quand même, depuis qu'il est président, nous a habitués à une certaine forme de double langage.
Je ne permettrai pas de dire ça.
Ce que mon confrère indiquait tout à l'heure sur le début à l'égard de l'Europe, puis cette espèce de tournant. Demain, on peut s'attendre à ce qu'il retourne Kazakh dans l'autre sens. Donc comment vous lui faites confiance? Comment vous lui accordez vraiment une autorité en matière de ligne?
Non, mais ce qui est très important, c'est que il y a une prise de conscience généralisée que, de toute façon, l'Europe va dans le mur si elle mène la même politique d'austérité. Et François Hollande, chef d'État, président de la France, il est dans cette prise de conscience. Bah, tant mieux, félicitons-en. Et puis surtout, encore une fois, la France, c'est pas n'importe quel pays.
Justement, la France et l'Italie, vous faites davantage confiance à François Hollande, sa méthode des petits pas, son souci du compromis, ou alors Matteo Renzi qui prétend renverser la table?
Écoutez, ça serait sûr, c'est sûr qu'en Europe, il vaudrait mieux renverser la table, hein, parce qu'il y a de quoi faire. Mais la question de la méthode, finalement, importe peu. Ce qui compte, c'est le résultat. Si, à l'issue de ce sommet, et dans les mois qui viennent, il y a une réorientation de la politique budgétaire et, ce qui serait bien aussi, de la politique monétaire de l'Union. Parce qu'on n'en parle jamais, ça. On parle des cotisations qui pèsent sur les patronats, tout ça. Mais moi, pendant la campagne, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui avaient des boîtes qui exportaient et qui nous ont parlé du niveau de l'euro. Disons, là, il y a quand même un problème. Donc, politique budgétaire, politique monétaire, s'il y a une réorientation, eh ben, c'est très bon à prendre. Que ce soit en renversant la table ou en faisant des petits pas, peu importe, à la rigueur.
Jean-Claude Juncker sera visiblement et très probablement le futur président de la Commission européenne. S'il est investi par le Parlement, vous voterez à ce moment-là, ce sera au mois de juillet. Vous apporterez votre suffrage à Jean-Claude Juncker?
Ben non. Pour une raison assez simple, j'ai fait quand même campagne pendant 3 mois. En expliquant qu'il fallait politiser les élections européennes, qu'il y avait la droite et la gauche, que la gauche, et en tout cas le candidat du Parti Socialiste Européen, c'était Martin Schulz, que Martin Schulz, lui-même, avec nous, passait son temps à dire « Monsieur Juncker, c'est l'incarnation, c'est en quelque sorte le VRP des paradis fiscaux, c'est quelqu'un qui s'est toujours opposé à la levée du secret bancaire, etc. etc. » C'est difficile pour moi. Enfin, la crédibilité de la parole publique, ça vaut surtout pour ce qu'on a dit pendant les élections. Et ça, pendant 3 mois, j'ai dit ça. Et il faudrait que je me retrouve au Parlement européen à mettre le bulletin Juncker. Vous voyez bien que c'est pas possible. Donc non.
Marine Le Pen, au Parlement, a échoué à former son groupe politique. Ça vous réjouit?
C'est pas que ça me réjouit, c'est que c'est assez logique. Finalement. Vous mettez des nationalistes ensemble, c'est difficile qu'ils se mettent d'accord, hein, puisque par définition, ils se sont construits sur le rejet ou la défiance à l'égard des autres. Donc évidemment, construire un groupe européen de nationalistes, ça marche pas. Alors attention, parce qu'il faut pas crier victoire trop tôt. Hein, elle peut le faire, elle peut continuer à essayer, et peut-être qu'elle trouvera tel ou tel. Il manque un pays. Hein, donc je pense pas qu'il faille en tirer des conclusions politiques. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que elle rassemble pas. Et deux, son efficacité, contrairement à ce qu'elle prétend, risque d'être incroyablement limitée dans le débat européen dans les 5 ans à venir.
On a beaucoup parlé ces derniers temps des bisbilles entre le père et la fille autour d'un jeu de mots antisémite de Jean-Marie Le Pen. Selon vous, tous ces échanges doux amers entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, c'est un jeu de rôle ou ça marque vraiment une rupture, une profonde divergence ?
Moi, je pense qu'on est dans le jeu de rôle. Je pense qu'on est dans le jeu de rôle, alors plus ou moins scénarisé, mais enfin c'est quand même un jeu de rôle, quoi. Jean-Marie Le Pen, il est président d'honneur du Front National, il a créé ce parti, beaucoup de dirigeants lui sont fidèles, et Marine Le Pen, elle s'inspire aussi de cette tradition-là. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans une sorte de rupture politique qu'elle voudrait nous faire croire.
Voilà. Lilian Lemania.
Il y a un mot que l'entourage de Marine Le Pen utilise beaucoup, c'est le mot « patriote ». Aujourd'hui, dans un courrier de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS envoyé aux militants, je crois le titre 2 parle de patriotes aussi. On sent une volonté, Manuel Valls le dit à chaque discours, de reprendre la main sur ce mot patrie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Et pourquoi reprendre la main ? Enfin, je veux dire, on va quand même pas laisser le monopole du patriotisme au Front National. Moi, je suis incroyablement patriote. J'aime passionnément mon pays. J'aime passionnément son histoire.
Il y a quand même quelques années, à gauche, c'était un gros mot patriote.
Mais où est-ce que vous avez vu ça ? Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on n'est pas patriote. Au contraire. Et d'une certaine façon, tout ce qui peut contribuer à renforcer les intérêts de la France est bienvenu. Regardez sur l'affaire Alstom, on n'a pas parlé, mais moi, au moins, ce que je vois de positif là-dedans, c'est qu'on renoue avec cette tradition de l'État stratège et de défense des intérêts stratégiques de notre pays. Franchement, voilà, moi, j'ai jamais aimé ce procès consistant à dire mais la gauche serait culturellement moins patriote. C'est pas vrai. Regardez toute l'histoire glorieuse de la gauche française. Enfin, elle a pas toujours été glorieuse, mais elle l'a été parfois, en tout cas. Évidemment, il y a ce lien très très fort avec le patriotisme. C'est pas parce qu'on est internationaliste, ce qui est notre cas, qu'on n'est pas patriote. Et là-dessus, je citerai pas Gandhi, mais Jean Jaurès a dit des choses très belles là-dessus.
Bernard Pellegrin.
Vous venez de parler d'Alstom. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse avoir une politique de renationalisation ou de nationalisation à un moment et puis de privatisation à un autre moment, puisque là, ce soir, l'État va vendre 4,5% de GDF, je crois. Est-ce que les deux
Un peu plus de 3%, oui.
Un peu plus de 3%. Est-ce que les deux sont possibles ? Est-ce que c'est dans un jeu normal pour un État de jouer avec son intervention ou pas dans l'économie du pays ?
Moi, un certain pragmatisme de l'État stratège ne me gêne pas. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je suis pas gêné. Après, il y a eu un tel mouvement de privatisation depuis des années et des années que je trouve ça bien que l'État reprenne la main sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Et j'ai envie de vous dire, il y a encore plein de choses à faire dans ce domaine. Que ça soit l'État, d'ailleurs, ou la puissance publique, entendue au sens plus large.
Parce que ça peut être les collectivités locales. Ça vous va aussi?
J'ai dit que dans cette affaire, il y avait une gestion pragmatique et qui essayait de remettre l'État stratège au cœur du jeu économique. Ça me va bien.
Alstom, c'est l'anti-Florange, comme Manuel Valls l'a dit ?
Non, c'est pas l'anti-Florange. C'est que il y a une compréhension quand même. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois les salariés d'Alstom. Il y a une compréhension à la fois du dossier, des intérêts de la boîte, mais aussi des intérêts de la France, et que c'est plutôt prometteur. Après, j'aurais préféré que l'État ait une minorité de blocage. Bon, mais je suis suffisamment critique sur beaucoup d'aspects de la politique gouvernementale pour pas me féliciter de ce qui va dans la bonne direction, à mon avis.
Et Alstom, c'est le triomphe d'Arnaud Montebourg ?
Non, Arnaud Montebourg a contribué à ce résultat et c'est tant mieux. Enfin, c'est encore une fois, si c'est le succès de la France, c'est l'essentiel.
Ça pourrait être Arnaud Montebourg qui occuperait le leadership de la gauche du Parti socialiste ?
Je ne sais pas s'il veut occuper un leadership quelconque. Pour l'instant, il est au gouvernement, il est ministre, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ministre de l'économie.
Ministre de l'économie, voilà.
Il y a d'autres titres après.
C'est bien. C'est bien. Montebourg, c'est une voix singulière dans la gauche française, mais il ne vous aura pas échappé qu'en même temps, il a largement contribué à l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Donc, ce qui n'est pas forcément toujours ce qu'aurait été le souhait de l'aile gauche traditionnelle, on va dire. Donc, voilà, c'est un personnage intéressant, mais il y a beaucoup de talent au Parti socialiste. Et puis vous avez l'aile gauche, hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'aile gauche? On parle jamais de l'aile droite, qui est pourtant...
Ah si, on en parle, l'aile droite.
Parce qu'on a un solférino dactyle qui est un peu déséquilibré. Quoi.
Non.
Donc, de toute façon, moi, ça m'intéresse pas de d'être là sur mon précaré d'aile gauche. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le Parti Socialiste soit à gauche, fidèle à ses fondamentaux, fidèle à son histoire.
Et là, il ne l'est pas.
Bah, il ne l'est pas toujours. C'est d'ailleurs pour ça que je suis vigilant. Mais je ne suis pas le seul. Hein. On est des milliers de militants à l'être et à dire qu'il faut que ça change.
Emmanuel Morel est l'invité de Mardi Politique. Parlons de l'UMP, au plus mal, à droite. Un scandale financier sans précédent. Un système de fausses factures pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Est-ce que l'ex-président doit être tenu responsable, même s'il dit qu'il n'était pas au courant?
Je ne sais pas s'il doit être tenu pour responsable, mais en tout cas, il faudrait quand même qu'il s'explique. C'est quand même un truc énorme. Parce que bon, comme tout va très vite, comme il y a des petites affaires, des grosses affaires, finalement tout ça passe assez inaperçu. Moi, je pense que...
Vous avez l'impression?
Oui, je vais vous dire, parce que c'est un énorme scandale. C'est un scandale colossal. Et si tout ce qui est aujourd'hui avancé et avéré... C'est une affaire quasiment inédite dans la Ve République. Donc là, pour le coup, il est évident que l'UMP, et singulièrement Sarkozy, doit s'exprimer là-dessus.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'affaire Urba? C'était le financement occulte du Parti Socialiste dans les années 80. Ça a miné le second septennat de François Mitterrand. Est-ce qu'il y a un petit parallèle? Le PS l'a payé très cher ensuite. Est-ce que l'UMP va le payer très cher, ça?
Je suis incapable de vous dire, parce que pour l'instant, l'affaire, je sais pas comment on l'appelle, UMP, Big Malion, n'en est qu'à ses débuts. On ne sait pas. Urba, c'était du financement de partis politiques. Voilà. Là, je ne sais pas si c'est que du financement de partis politiques.
Oui, l'enrichissement personnel possible.
Je ne sais pas. Ça n'était pas le cas dans Urba.
C'était pas le cas.
Donc, même si...
Mais il y avait des fausses factures dans Urba.
Encore une fois, j'étais très jeune à l'époque, donc je me souviens pas exactement de tous les détails. Mais ce que je vois là sur l'affaire UMP, c'est manifestement d'abord quelque chose de très systémique. Et ensuite, on parle d'enrichissement. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire s'il n'y en a pas eu. Auquel cas, on serait dans quelque chose de beaucoup plus grave.
Mais quand même, à l'égard de la vie démocratique de ce pays, est-ce que ces difficultés, ou pire, que rencontre l'UMP, est-ce que c'est pas finalement très grave pour ce pays?
Mais évidemment. Enfin, je ne vais quand même pas me réjouir qu'il y ait un énorme scandale qui touche la principale force d'opposition. Je m'en réjouis pas parce que, vous savez, les gens qui regardent rapidement le journal ou rapidement la télé, ils n'en tirent qu'une seule conclusion. Hein. C'est décidément...
Tout pourri.
Voilà. Et moi, c'est pas ce que je souhaite pour mon pays, c'est pas ce que je souhaite pour la vie politique. Et en même temps, là, clairement, il faut que les responsables s'expliquent et s'expriment. Et qu'on laisse pas une seule personnalité payer pour tout le monde, quoi.
Il nous reste une minute, Emmanuel Morel, on va parler football.
Très bien.
Voilà, je savais que ça vous réjouirait.
Je me souviens très bien, pourquoi pas, on peut parler musique si vous voulez aussi, mais football, oui, c'est sûr, c'est d'actualité.
C'est la Coupe du Monde et François Hollande pourrait même aller soutenir l'équipe de France si elle se qualifie en quart de finale.
Parce que vous pensez qu'il va lui porter chance?
Je vous pose la question. Oh. Est-ce que François Hollande peut porter chance à l'équipe de France?
Non, moi je pense que c'est Didier Deschamps qui peut porter chance à l'équipe de France. Et il y avait un remarquable article dans Libé aujourd'hui qui disait Deschamps, c'est celui qui à qui la chance arrive avant même que les problèmes qui devaient se poser se posent. Quoi.
Et Hollande, c'est la scoumoud ou...
Pas du tout. Non, mais restons. On parle de football. Je vous dis, c'est Didier Deschamps et vraiment son coaching magnifique qui fait qu'aujourd'hui on a des chances d'aller loin.
Non, mais certains disent que François Hollande, il essaie un peu de récupérer les victoires de l'équipe de France.
Vu tous les chefs d'État et de gouvernement ont fait ça.
C'est comme les autres.
Alors franchement, c'est quand même pas très original. Et en plus, il faut dire aussi que Hollande aime le foot.
Ce serait contre l'Allemagne. les quarts de finale, si tout se passe bien.
Donc Hollande, alors Merkel,
ça,
pour le tribunes,
si on pouvait mettre la pâté aux Allemands en quart de finale, ça serait parfait.
Merci, merci Emmanuel Morel. C'est la fin de merci Mardi Politique avec Mathias Golciani à la réalisation, Audrey Yatoni à la programmation. Vous faites votre rentrée au Parlement dans quelques jours. Mardi Politique, c'est fini. Retour le 2 septembre. Très bonne soirée à tous.